Chapitre 7. Janvier 1975. Todd quitta l'école après la dernière sonnerie, seul, prit son vélo et pédala dans le parc. Il trouva un banc désert, cala la chouine sur sa béquille et sortit son bulletin de sa poche revolver. Il regarda autour de lui au cas où quelqu'un de sa connaissance serait dans les environs, mais les seules personnes en vue étaient un couple de lycéens enlacés près de l'étang et deux ivrognes répugnants qui se repassaient un sac en papier. « Sale enculé d'ivrogne », pensa-t-il. Mais ce n'était pas eux qui le préoccupaient. Il ouvrit le bulletin. Anglais, C. Histoire américaine, C. Sciences naturelles, D. Votre classe et vous, B. Français, F. Algèbre, F. Il regarda ses notes, incrédule. Il s'attendait à ce que ce soit mauvais, mais c'était un désastre.
« C'est peut-être mieux », dit soudain une voix intérieure. « Peut-être même l'as-tu fait exprès, parce qu'une partie de toi veut en finir, a besoin d'en finir, avant qu'il arrive un coup dur. »
Il chassa brutalement cette idée. Il n'y aurait aucun coup dur. Doux Sander était à sa botte, complètement à sa botte. Le vieil homme croyait qu'un ami de Todd détenait une lettre, mais il ne savait pas quel ami. Si quelque chose arrivait à Todd, quoi que ce soit, la police recevrait cette lettre. Il pensait qu'autrefois Doux Sander aurait quand même tenté le coup. Maintenant, il était trop vieux pour s'enfuir, même avec une longueur d'avance.
« Je le tiens, bon Dieu !»
murmura-t-il. Puis il se cogna la cuisse si fort que le muscle se noua. Parler tout seul, ça fout dans la merde. Ce sont les fous qui parlent tout seuls. Il en avait pris l'habitude depuis environ 6 semaines, et il n'arrivait pas à s'en sortir. Il avait surpris plusieurs personnes qui le regardaient d'un air bizarre, dont 2 professeurs. Et ce trouduc de Bernie Everson avait eu le culot de lui demander s'il ne devenait pas zinzin. Todd avait été très très près de foutre sur la gueule à cette petite tantouse, mais ce genre de truc, bagarre, mêlée, coup de poing, ne valait rien. Ce genre de truc vous faisait remarquer par tous les mauvais bouts. Parler tout seul, ça craint. Ouais, ok, mais...
Les rêves aussi, ça craint,
chuchota-t-il, sans pouvoir s'en empêcher cette fois. Ces derniers temps, les rêves craignaient salement. Dans ses rêves, il était toujours en uniforme, mais le style variait. Parfois, c'était un uniforme en papier, et il était en rang avec des centaines de types tout maigres. Il y avait dans l'air une odeur de brûlé, et on entendait le grondement saccadé des bulldozers. Alors, Doux Sander passait devant les rangs, désignant tel ou tel type. Cela restait. Les autres étaient conduits vers les crématoriums. Quelques-uns résistaient, se débattaient, mais la plupart étaient trop mal nourris, trop épuisés. Puis Doux Sander arrivait devant Todd. Leurs regards se croisaient pendant un long moment paralysant, et Doux Sander pointait vers Todd un parapluie défraîchi.
« Emmenez celui-là au laboratoire, »
disait Doux Sander dans le rêve, avec une grimace qui découvrait ses fausses dents.
« Prenez ce gamin, cet Américain. »
Dans un autre rêve, il était en uniforme SS. Ses cuissardes cirées brillaient comme un miroir. L'insigne à tête de mort et les éclairs en argent étincelaient. Mais il était au milieu du boulevard Santo Donato, et tout le monde le regardait. On le montrait du doigt. Certains se mettaient à rire. D'autres paraissaient choqués, furieux ou révoltés. Dans ce rêve, une vieille bagnole s'arrêtait avec fracas, en grinçant. Et Doux Sander le dévisageait. Un Doux Sander ayant l'air d'avoir 200 ans. Presque une momie, avec une peau jaune comme du parchemin.
« Je te reconnais !»
Le Doux Sander du rêve hurlait d'une voix perçante, parcourait du regard les spectateurs et revenait sur Todd.
« Tu dirigeais, Patine, regardez tous, c'est le monstre sanguinaire de Patine, l'expert en rendement de Himmler. Je te dénonce, assassin, je te dénonce, boucher, je te dénonce, tueur d'enfants, je te dénonce !»
Dans un autre rêve encore, il portait un uniforme rayé de prisonnier. Deux gardes qui ressemblaient à ses parents le conduisaient le long d'un couloir au mur de pierre. Tous les deux portaient en évidence un brassard jaune avec l'étoile de David. Un prêtre les suivait, lisant le Deutéronome. Todd regardait par-dessus son épaule et voyait que le prêtre était Doucander et qu'il portait la tunique noire d'un officier SS. Au bout du couloir en pierre, une double porte ouvrait sur une salle octogonale avec des murs en verre. Un échafaud était dressé au milieu. Derrière les vitres s'alignaient plusieurs rangées d'hommes et de femmes décharnés, nus, avec tous le même regard vide et obscur. Et tous un numéro bleu sur le bras.
« Tout va bien », murmura Todd, pour lui-même. « C'est ok, vraiment. Il peut rien se passer. »
Le couple enlacé regarda de son côté. Todd leur lança un regard féroce, les mettant au défi de parler. Finalement, ils se détournèrent. Est-ce que le garçon souriait ou pas? Todd se releva, enfonça son bulletin dans sa poche revolver et reprit son vélo. Il pédala jusqu'au drugstore, deux blocs plus loin, où il acheta un flacon de corrector et un crayon bille bleu à pointe fine. Puis il retourna au parc. Le couple était parti, mais les clodos étaient toujours là, qui empestaient. Et changea sa note d'anglais en B, d'histoire américaine en A, de sciences naturelles en B, de français en C et d'algèbre en B. Il effaça simplement « Votre classe et vous » et le recopia pour que l'ensemble ait un aspect uniforme. Uniforme. Droite.
« Peu importe », souffla-t-il. « Ça les retiendra. Ça les retiendra au poil. »
Une nuit, vers la fin du mois, un peu après 2 heures, Kurt Doucander se réveilla en se battant avec les draps, haletant, gémissant, dans une obscurité oppressante et terrifiante. Il était à demi étouffé, paralysé par la peur. C'était comme s'il avait une grosse pierre sur la poitrine, et il se demanda si ce n'était pas une crise cardiaque. Il griffa les draps en cherchant la lampe de chevet et faillit la faire tomber de la table de nuit en l'allumant. « Je suis dans ma chambre », se répéta-t-il. « Dans ma propre chambre. Je suis à Santo Donato, en Californie, en Amérique. Regarde, les mêmes rideaux marrons tirés devant la même fenêtre, les mêmes étagères remplies avec des livres de poche achetés à la librairie de Soren Street, le même tapis gris, le même papier bleu au mur. Pas de crise cardiaque, pas de jungle, pas Dieu. » Mais la terreur lui collait toujours au corps comme une fourrure puante, et son cœur continuait à s'affoler. Le rêve était revenu. Il savait qu'il reviendrait tôt ou tard si le gamin continuait. Le maudit gamin. Il pensait que la lettre en lieu sûr n'était qu'un bluff, et en plus, pas des plus réussis. Il avait dû tirer ça d'un feuilleton policier à la TV. À quel ami le gosse pourrait-il se fier pour ne pas ouvrir une lettre aussi importante? À personne, voilà tout. Du moins, il le croyait. S'il pouvait en être sûr. Ses mains se crispèrent avec un craquement douloureux, son arthrite, puis se rouvrirent lentement. Il prit son paquet de cigarettes sur la table et en alluma une, frottant négligemment l'allumette sur le bois de lit. Les aiguilles du réveil marquaient 2h41. Plus question de dormir cette nuit. Il aspira la fumée et une quinte de toux convulsive la lui fit recracher. Plus question de dormir, sauf s'il voulait descendre et boire un ou deux verres. Ou 3. Et il avait pris nettement trop d'alcool depuis environ 6 semaines. Il n'était plus un jeune homme capable de boire tournée après tournée, comme lorsqu'il était officier en permission dans le Berlin de 1939, avec dans l'air un parfum de victoire, qu'on entendait partout la voix du Führer, qu'on voyait ses yeux flamboyants, impérieux.
Le gamin. Le maudit gamin. Sois honnête, dit-il tout haut,
et le son de sa propre voix dans la pièce silencieuse le fit légèrement sursauter. Il n'avait pas l'habitude de parler tout seul, mais ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait. Il se souvenait l'avoir fait quelques fois pendant les derniers temps de Patine, alors que tout s'écroulait autour d'eux et que le tonnerre des canons russes à l'est se faisait plus fort de jour en jour, puis d'heure en heure. C'était plutôt naturel, à l'époque, de parler tout seul. Il était sous pression, et les gens sous pression font souvent de drôles de choses. Se réchauffer les couilles à travers la poche du pantalon, claquer des dents. Wolf était un grand claqueur de dents. En même temps, il souriait. Huffman, lui, faisait claquer ses doigts et se frappait les cuisses, créant des rythmes rapides et complexes dont il ne se rendait absolument pas compte. Lui-même, Kurt Dussander, parlait parfois tout seul.
Mais maintenant, tu es encore sous pression, dit-il tout haut,
conscient cette fois d'avoir parlé allemand. Il y avait des années que cela ne lui était pas arrivé, mais il y trouvait une sorte de chaleur, de confort. Cette langue l'apaisait, le berçait. Elle était douce et sombre.
Oui, tu es sous pression à cause du gamin, mais sois honnête avec toi-même. Il est trop tôt pour te raconter des histoires. Tu ne regrettes pas entièrement d'avoir parlé. Au début, tu étais terrifié à l'idée que le gamin pourrait ne pas garder son secret. Il faudrait qu'il le dise à un ami, qu'il le dirait à un autre ami, et cet ami le dirait à deux autres. Mais s'il l'a gardé aussi longtemps, il continuera. Si on m'emmène loin d'ici, il perdra son livre parlant. Est-ce cela que je suis pour lui? Je crois.
Sa voix se tut, non ses pensées. Il s'était senti si seul. Personne ne saurait jamais à quel point. Il y avait eu des fois où il avait presque pensé sérieusement au suicide. Il ne faisait pas un bon ermite. Les voix qu'il entendait venaient de la radio. Les seules personnes qui lui rendaient visite, en quelque sorte, il les voyait à travers un carré de vitres sales. Il était un vieil homme et il avait peur de la mort, mais encore plus d'être un vieil homme solitaire. Parfois sa vessie le trahissait. Il était à mi-chemin de la salle de bain quand une tache noire s'élargissait sur son pantalon. Par temps humide, il avait d'abord des élancements dans les articulations, et puis c'était l'horreur. Certains jours, il avait avalé un flacon entier d'antiarthrite entre le lever et le coucher du soleil. Pourtant, seule l'aspirine le calmait un peu. Les jours où le simple fait de prendre un livre sur une étagère ou de changer de chaîne de TV pouvait le conduire au paroxysme de la douleur. Il y voyait mal. Parfois, il renversait des objets, s'éraflait les tibias, se cognait la tête. Il vivait dans la terreur de se casser un membre et de ne plus pouvoir atteindre le téléphone, mais aussi avec la peur d'y arriver pour qu'un médecin quelconque découvre son histoire en s'interrogeant sur le dossier médical inexistant de M. Denker. Le gamin l'avait en partie soulagé. Quand il était là, Dussander pouvait évoquer l'ancien temps. Il avait sur cette époque des souvenirs d'une clarté perverse et débitait un catalogue apparemment inépuisable de noms et d'événements jusqu'au temps qu'il faisait tel ou tel jour. Il se souvenait du soldat Enraid, qui servait une mitrailleuse dans la tour nord-est, et de la loupe que ce soldat avait entre les yeux. Certains de ces hommes l'appelaient Trois Yeux, ou Vieux Cyclope. Il se souvenait de Kessel, qui avait une photo de sa petite amie allongée sur un divan, nue, les mains derrière la tête. Kessel faisait payer pour la montrer. Il se souvenait des noms des médecins et de leurs expériences, les seuils de douleur, les ondes cérébrales des hommes et des femmes en train de mourir, les ralentissements physiologiques, les effets de différentes sortes de radiations. Il y en avait des douzaines de ce genre. Des centaines. Il supposait qu'il parlait aux gosses comme le font tous les vieillards, mais qu'il avait plus de chance que la plupart qui n'avaient en face d'eux qu'impatience, désintérêt ou grossièreté. Son public était fasciné de bout en bout. Quelques mauvais rêves, était-ce trop cher payé? Il écrasa sa cigarette, regarda le plafond quelques instants, puis posa les pieds par terre. Le gosse et lui, se dit-il, devaient être répugnants à se nourrir l'un l'autre, se dévorer l'un l'autre. Si parfois son ventre rechignait devant les aliments trop sombres et trop riches qu'il se partageait l'après-midi dans sa cuisine, qu'en était-il du gosse? Dormait-il bien? Peut-être pas. Ces derniers temps, Dussander le trouvait plutôt pâle et plus maigre que lorsqu'il était entré dans sa vie. Il traversa la chambre, ouvrit la porte de la penderie, poussa les cintres sur la droite, fouilla dans l'ombre et en sortit le faux uniforme qui pendait à son poignet comme une dépouille de vautour. De l'autre main, il le toucha. Il le toucha, puis le caressa. Au bout d'un long moment, Il décrocha l'uniforme et s'en revêtit, s'habillant lentement, ne se regardant dans le miroir que lorsque le costume fut ceinturé et boutonné jusqu'au dernier bouton, et close l'anachronique braguette. Il se regarda dans le miroir, à ce moment-là, et hocha la tête. Revint vers le lit, s'allongea et fuma une deuxième cigarette. Quand elle fut terminée, il eut de nouveau envie de dormir. Il éteignit la lampe sans y croire, que ce soit aussi facile. Mais 5 minutes plus tard, il dormait, et cette fois d'un sommeil sans rêve.